إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما dit: Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Aucun d'entre vous n'aura la foi tant que sa passion ne sera pas conforme à ce que j'ai apporté. Hadith bon et authentique, nous l'avons rapporté dans le livre Al-Hujja d'une chaîne de transmission authentique. Donc ce hadith, il nous est rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma. Et il fait partie de ceux qui ont rapporté beaucoup de hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce car il écrivait radiyallahu ta'ala anhu. D'ailleurs, Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, il l'enviait pour cela. Et il disait: je ne connais personne qui a rapporté plus de hadiths que moi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est Abdullah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhuma. Et il disait radiyallahu ta'ala anhu: car certes, il écrivait et je n'écrivais pas. Et ceci est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Donc dans ce hadith, il nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aurait dit: aucun d'entre vous n'aura la foi, c'est-à-dire, comme on l'a vu dans d'autres hadiths précédents, aucun d'entre vous n'aura la foi complète. Ceci est une négation de la perfection de la foi et non pas de sa totalité. Donc aucun d'entre vous n'aura la foi complète tant que sa passion ne sera pas conforme à ce que j'ai apporté. Sa passion, c'est-à-dire ses penchants et ses désirs, tant qu'ils ne seront pas conformes à ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a apporté, c'est-à-dire à sa législation, aux enseignements de sa religion. Donc celui dont les passions et les désirs ne sont pas conformes à ce qu'a apporté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci, il a la foi déficiente et sa foi n'est pas complète d'après le texte mentionné dans ce hadith. Ensuite, l'imam al-Nawawi rahimahullahu ta'ala, il a dit: c'est un hadith bon et authentique, nous l'avons rapporté dans le livre Al-Hujja d'une chaîne de transmission authentique. L'imam ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, dans son explication des 40 hadiths, il a repris l'auteur quant à l'authentification de ce hadith. Et il a mentionné certains points démontrant que le hadith n'est pas authentique. Cependant, que la chaîne de transmission de ce hadith soit authentique ou non, il ne fait aucun doute que le sens du hadith est authentique. Et ce car il est obligatoire pour le musulman que ses passions et ses désirs, elles soient conformes à quoi? À la législation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce, car nous lui devons obéissance. On tire donc comme bénéfice de ce hadith, premièrement, la mise en garde sévère contre le fait que l'homme fasse prévaloir sa raison ou les coutumes de son pays à la législation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En effet, dans ce hadith, on apprend que la foi de l'homme ne peut être complète tant qu'il ne se soumettra pas complètement, que ce soit dans ses passions et ses désirs ou autres, à ce avec quoi est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith qu'il est obligatoire pour l'homme de chercher les preuves tout d'abord, c'est-à-dire d'argumenter, puis ensuite de statuer sur la chose ou sur la question. Et non pas de juger, de statuer sur une chose, puis ensuite de chercher ses preuves. Et ceci est une règle très importante, mes frères. Si tu recherches le jugement d'une chose, que ce soit dans les croyances ou dans les œuvres, cherche tout d'abord les arguments, cherche les preuves, puis ensuite tu vas statuer sur cette chose. Quant au fait de statuer sur la chose, d'émettre un jugement, de prendre une position, de statuer sur une affaire, puis ensuite d'en chercher les preuves, alors faisant ainsi, la personne, elle a inversé les choses.
Et elle a soumis le livre et la sunna à sa raison ou à ses passions. Et le croyant qui souhaite perfectionner sa foi, il se doit tout d'abord de chercher les preuves, puis ensuite d'émettre le jugement. Et non pas l'inverse. Car ce sont tes passions qui doivent être soumises au livre et à la sunna. Et non pas le livre et la sunna soumis à tes passions. C'est pour cela que Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit que tu trouveras des savants, qu'Allah leur fasse miséricorde et leur pardonne, parmi ceux qui s'attachent fermement à un madhhab. Ils soumettent les preuves à l'avis de leur madhhab. C'est-à-dire qu'ils connaissent l'avis jugé prépondérant dans leur madhhab. Puis en vue de cela, ils vont tordre les textes dans tous les sens. Pourquoi ? Pour soutenir leur avis. De sorte à te démontrer que les preuves prouvent bien ce qu'ils ont choisi comme avis. Et ceci est une erreur. Et c'est une des calamités par lesquelles sont éprouvés les gens qui sont tombés dans le fanatisme. Que ce soit le fanatisme pour les madahib, ou même le fanatisme pour un quelconque savant, ou une personne parmi les gens de science qui a prononcé une parole contraire à la vérité. Celui qui est fanatisé, il ne va pas chercher des preuves, il ne recherche pas la vérité. Mais il ne cherche simplement quoi ? Qu'à soutenir l'avis de la personne pour laquelle il s'est fanatisé. Donc il a émis un jugement, il a accepté sa parole, puis ensuite il va en chercher les preuves. Et ceci est une erreur, une preuve de fanatisme. Et une preuve de suivi des passions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Car celui qui cherche à perfectionner sa foi, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va chercher les preuves tout d'abord. Et ses passions, elles vont se soumettre à ce qui est venu dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors que l'adepte des passions, qu'est-ce qu'il va faire ? Il croit en cette parole. Pourquoi ? Car elle provient de la personne pour laquelle il s'est fanatisé. Et ensuite, il va chercher des pseudo-preuves pour appuyer cette parole. C'est-à-dire qu'il a cru, puis ensuite il a cherché à argumenter. Alors que le partisan de la vérité, qu'est-ce qu'il fait ? Il réclame les preuves tout d'abord. Il n'accepte pas une parole sans preuve. Les partisans de la vérité, lorsqu'on leur présente une parole, ils en réclament les preuves. Si les preuves sont présentes, falhamdulillah, ils se soumettent à la vérité conformément à ces preuves. Mais si les preuves sont absentes, que les preuves ne sont pas réellement des preuves, que les preuves ne sont pas des preuves démontrant le jugement que tu as prononcé, ne sont pas des preuves impliquant les paroles que tu as prononcées, alors ceci est rejeté, car elles ne sont pas conformes à la réalité. Donc comme on a dit, le partisan de la vérité, il réclame les preuves, puis il statue. Quant au partisan des passions, il statue, puis il va chercher des preuves pouvant démontrer ce sur quoi il a statué. Troisièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que les passions, elles se divisent en deux catégories. Il y a les passions louables et les passions blâmables. Tout en sachant que la base, lorsque l'on parle de suivi des passions dans le Coran ou dans la Sunna, ce qui est visé par cela, c'est les passions qui sont blâmables. En effet, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala évoque le suivi des passions dans son noble livre, c'est toujours de manière péjorative. Cependant, ce hadith, il nous démontre qu'il y a parmi les passions deux catégories. Les passions louables, ce sont donc celles qui sont conformes à ce avec quoi est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que les passions de la personne, si elles se soumettent à la législation, alors ces passions-là, elles sont louables. Quant aux passions blâmables, ce sont celles qui s'opposent à ce avec quoi est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, quatrièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith l'obligation de juger avec la charia, la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ce dans toutes choses. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec tout le bien. Il n'y a pas un bien sans qu'il ne l'ait indiqué à sa communauté. Il n'y a pas un mal sans qu'il ne l'ait averti contre celui-ci. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, au verset 89 de Surat al-Nahl, « وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ » Nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toute chose. Donc, il n'y a pas une chose dont ont besoin les gens dans ce bas monde, que ce soit dans leurs affaires religieuses ou dans leurs affaires mondaines, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'ait exposé. Soit de manière claire et explicite, que toute personne peut comprendre, soit de manière subtile, et les savants, enracinés dans la science, en ont connaissance, et l'exposent à la masse des gens. Ceci est donc le quatrième bénéfice que l'on peut tirer de ce hadith. Et enfin, cinquièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que la foi augmente et diminue comme ceci est la croyance des gens de la sunna et du groupe. En effet, il dit aucun d'entre vous n'aura la foi, c'est-à-dire la foi complète. Ceci nous indique que la foi, elle peut être complète ou défaillante, c'est-à-dire qu'elle augmente et qu'elle diminue. Ceci était donc quelques bénéfices que l'on tire de ce hadith. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.